Je me suis réveillée un matin de bonheur. Je veille sur toi, je veille sur toi, je veille sur toi, toi, toi. Je me suis réveillée, j'ai frémi de peur, car j'ai trouvé l'envahisseur qui voulait gratter à fleur de rocher. Je veille sur toi, je veille sur toi, je veille sur toi, 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 prêt à massacrer hibou orchidée pour remplir son propre panier. Écho de combine, délire de tracteur.
Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que nous vous accueillons, comme tous les mois, dans cette émission Belle la Vanille proposée par l'association Protégeons le Mont Vanille Royan-Vercors. Parlons du sommaire. Dans le billet de Séverine, il sera question des super bassines qui suscitent un vif débat au sein de notre population et de nombre de nos institutions. Quant à notre invité du mois, il s'agit de Claude Maderne, chasseur et membre de deux ACCA, c'est-à-dire Association Communale de Chasse Agréée. Il sera reçu par Pierrick et va nous parler de ses associations et nous donner également une autre approche des pratiques de la chasse actuelle qui est au cœur de nombreuses polémiques. Enfin, Maud vous présentera son billet sur l'agenda des luttes. Voilà, et bien Séverine, c'est à toi.
Bonjour à tous. Le mois dernier, je me suis interrogée sur où est passée la neige. Et s'est posée la question des méga-bassines comme possible réserve d'eau pour créer de la neige artificielle. Cette question de l'eau, de sa répartition, de sa gestion est capitale aujourd'hui. Je partage avec vous ce que j'ai compris et retenu de ces méga-bassines. Dans quelles conditions d'abord va-t-on les utiliser ou sont-elles prévues? D'abord et avant tout dans le milieu agricole et aussi dans le secteur touristique, notamment comme c'est le cas pour les stations de ski, notamment dans les Savoies, pour permettre l'enneigement artificiel. Alors, voyons quels sont les arguments pour ou contre. D'abord les pour. Utilisons d'abord le bon langage. Si on est pour, on parlera de retenue de substitution. Dans le secteur agricole, l'idée principale est d'assurer une zone de stockage de l'eau pour les périodes sèches, pour ne pas avoir besoin de piocher dans les nappes phréatiques. Et cette gestion serait une manière de s'adapter au changement climatique. Pour les stations de ski, l'enneigement artificiel permet de continuer à ouvrir les stations, même avec un enneigement minime. Enfin, c'est peut-être un petit peu moins vrai ces dernières années. Et ça serait aussi l'idée de faire vivre nos stations de ski et de maintenir les emplois saisonniers. Maintenant, les arguments contre les méga-bassines. Ah bah oui, on change de mot, on change de camp. Du coup, c'est méga-bassines. D'un point de vue purement physique, d'où vient l'eau ? De l'eau de pluie, d'accord, mais aussi et surtout des opérations de pompage dans les nappes phréatiques ou les cours d'eau. Et même si ces pompages ont lieu pendant l'hiver, ils rajoutent une pression supplémentaire sur ces ressources qui ont déjà du mal à se reconstituer naturellement. Si on adopte l'angle de la biodiversité, l'eau retenue ne peut plus s'infiltrer dans les sols, les cours d'eau et permettre ainsi de reconstituer les zones humides. Et de fait, les méga-bassines transforment cette ressource courante, vivante, en eau stagnante qui s'évapore et se dégrade. La question de l'évaporation. Tout le monde connaît le processus, le phénomène. Il s'agit de mettre de l'eau qui reste au soleil. Tout le monde le sait, elle s'évapore. Ce phénomène, évidemment, est présent aussi et amène une perte de 20 à 60% d'eau quand on est dans le cas des méga-bassines. D'un point de vue humain, on peut aussi se poser la question de qui parmi les agriculteurs aura le droit de puiser dans ces méga-bassines. Et on peut aussi se poser la question de ne sommes-nous pas en train de privatiser l'eau ? Et enfin, on peut s'interroger, est-ce que finalement ce n'est pas une solution pour ne surtout rien changer ? Est-ce que l'argent, les études, le temps investi pour garder les mêmes modèles de production en agriculture ou en enneigement, pourquoi ? 5 ? 10 années peut-être ? Ne serait pas mieux investi pour mettre en œuvre tout de suite le changement ? Finalement, on a deux visions qui s'opposent. Un modèle ancien, auquel on apporte les derniers soins palliatifs, d'un côté, et des personnes tournées vers le changement, celui qui prendra en compte notre avenir, celui de nos enfants, celui de la nature. À ce jour, la seule question qui m'importe, c'est a-t-on encore le temps de s'opposer ? Est-ce que ce ne serait pas plutôt celui d'une vraie concertation qui serait utile ? Je passe la parole à Pierrick et à notre invité, qui doit aussi avoir l'habitude d'entendre parler des oppositions.
Cailloux dans ma chaussure.
Bonjour Claude Maderne.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous accueillir sur Bella Vanille aujourd'hui. Pour ne rien vous cacher, le Mont Vanille, il est régulièrement fréquenté par les chasseurs et ça nous fait plaisir d'avoir un chasseur, un simple chasseur, comme vous dites, même si vous êtes membre de deux ACCA, pour nous parler un petit peu des pratiques et des usages de la chasse. Alors moi, la première question que j'ai envie de vous poser dans les débats qui se présentent autour de la chasse, récemment a été posée la question d'un jour sans chasse. Est-ce que ça vous paraît être une bonne proposition pour permettre aux randonneurs de circuler en toute sécurité le jour qui serait décrété sans chasse? Et quelles questions ça pose? Parce que j'ai l'impression que ça pose beaucoup de questions.
Alors un jour sans chasse, ça existe déjà. Il y a déjà des départements. Il faut savoir qu'en France, tous les départements n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement par rapport à leur jour d'ouverture, leur date de fermeture. Donc il y a une diversité qui est compliquée à gérer. Après, le jour sans chasse, par exemple, sur l'Isère, le vendredi, la chasse est fermée. Voilà. Donc, est-ce que c'est le bon jour? C'est pas à moi à en juger. Qu'il y ait un jour de non-chasse, ça reste à réfléchir. Comment dirais-je? Il faudrait que les associations se coordonnent. Et puis savoir pourquoi on fait un jour sans chasse, quoi. Est-ce qu'on réserve un jour uniquement... aux randonneurs, aux vététistes, aux promeneurs, aux skieurs, alors que rien ne les empêche, eux, d'aller tous les jours, dans les bois. C'est pas parce qu'il y a des chasseurs qu'on n'a pas le droit d'aller dans les bois, ou ailleurs, quoi.
Ça ne priverait qu'une certaine catégorie d'usagers.
Voilà.
Oui, alors effectivement, la question est ouverte, elle reste posée. On voit que la réglementation, en plus, elle n'est pas identique en fonction des territoires.
Ouais.
Et on peut se poser la question de comment mieux impliquer les différents acteurs de ces territoires pour qu'ils s'harmonisent entre eux, ou est-ce qu'il faut légiférer au niveau national?
Après, ce serait, oui, à mon avis, le c'est aux politiques à prendre des décisions pour justement uniformiser la réglementation et qu'elle soit pour tout le monde la même, quoi. Après, on parle énormément du dimanche, et ça, on peut le comprendre, puisque le dimanche, c'est le jour où il y a 95% des gens qui ne travaillent pas. Mais
c'est aussi le cas des chasseurs, ils travaillent pas le dimanche.
Voilà, c'est aussi, effectivement, il y a plein de gens qui ne peuvent aller à la chasse que le dimanche, et c'est pour ça qu'il y a des incompréhensions, des oppositions et des tensions, voilà.
Alors, Bella Vanille est une émission animée par Protégeons le Mont Vanille Royan-Vercors, et on a eu la chance d'être conviés il y a quelques temps, grâce à l'intermédiaire de la commune d'Austin, à une réunion avec les différentes organisations de chasseurs. Et je pense que c'est une piste pour créer du dialogue et créer de l'écoute et de l'échange sur les différents usages, le partage de l'espace, et on ne peut que plébisciter ce type d'attitude. C'était vraiment intéressant et, j'espère, constructif. Ensuite, la question qui se pose, c'est la question du permis de chasse aujourd'hui. Il y a eu dernièrement quelques militants qui ont mis en évidence que parfois on avait un permis de chasse, mais on ne respecte pas la réglementation, notamment en mettant en danger certaines populations, ou du moins c'est ce qu'essayait de faire valoir le militant en question. Comment vous percevez ce clivage, et comment en tant que chasseur ça vous fait, comment ça vous interpelle, et qu'est-ce que vous avez envie d'amener là-dessus?
Alors moi j'ai 61 ans, j'ai passé mon permis de chasse, j'avais 16 ans, donc vous voyez, ça fait très très longtemps, et depuis tout ce temps-là, je n'ai jamais été confronté à une remise à niveau, c'est-à-dire soit dans le maniement des armes, soit dans parce que les armes avec lesquelles on chassait il y a 45 ans en arrière et les armes d'aujourd'hui, elles ont beaucoup évolué, c'est plus les mêmes, elles sont plus puissantes, et je pense que les gens, ils n'ont pas la notion de la dangerosité des armes qu'ils manipulent. Alors, il y a eu, avec les nouveaux permis de chasse, il y a des examens pratiques et théoriques, mais des gens comme moi qui n'ont jamais, il n'y a pas eu de remise à niveau, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé tous les 5 ans ou tous les 10 ans ou tous les 15 ans de dire, tiens, on va faire un jour avec la fédération de chasse pour dire, tiens, il y a ça qui a évolué, il y a ça qui a changé, il vaut mieux plus faire ci, il vaut mieux plus faire ça. Et je pense que ça, c'est une prise de conscience personnelle, mais je suis pas le seul à avoir, je pense, cette...
Interrogation.
Cette interrogation.
C'est vrai que pour le permis de conduire, par exemple, les gens, ils passent le code, donc c'est la partie théorique. Et puis après, il y a la pratique qui dure une vingtaine d'heures de leçons minimum, je crois, par la réglementation. Mm-hmm. Avec la chasse, c'est beaucoup plus court. Ça se fait sur une journée, je crois.
Alors oui, c'est très vieux. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'épreuves pratiques. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même une épreuve pratique. On fait passer les gens, il faut qu'ils passent une barrière, il faut qu'ils démontent leur fusil. Je crois qu'il y a une séance de ball trap. Donc, mais c'est peanuts, quoi. C'est voilà, c'est deux heures ou trois heures.
C'est relativement léger.
Voilà, je pense que ça pourrait être. Alors même si la chasse accompagnée à partir de 15 ans, je crois, donne aux jeunes le pouvoir de chasser avec leurs parents et les habituer au maniement des armes ou à la connaissance de la chasse du territoire, là aussi, ça pourrait être amélioré. Me semble-t-il.
Après, il y a d'autres types de chasseurs qui sont pas forcément avec une typologie de chasse en battue, par exemple. Alors, parce que c'est de ça dont il était question quand le militant du Royan dénonçait l'attitude de certains chasseurs.
Alors effectivement, là où il y a plusieurs modes de chasse en France, il y a la chasse à l'arc, il y a la chasse. Il y a beaucoup de gens qui chassent la plume, le lapin, le lièvre, mais c'est des gens qu'on ne voit pas. Ils sont le gars qui va chasser la bécasse ou la grive le matin, il part tout seul ou avec un copain, il fait sa chasse, il est invisible. Alors que là où il y a le plus d'achoppement, on va dire, c'est sur la chasse en battue. Donc c'est des gens qui sont en groupe, ils sont habillés tout en orange, on les voit de loin, ils ont souvent des 4x4, ils ont des chiens, ils sont voilà, c'est ils ont une manière d'occuper l'espace qui est beaucoup plus voyante. Et ça interpelle les gens. Et là où il y a le plus de nombre d'accidents, c'est dans les battues. Parce que les gens, ils sont tellement passionnés, des fois, qu'ils arrivent à faire des erreurs. Alors maintenant, il y a des règles de tir. Il faut respecter un angle de 30 degrés. Il y a des consignes de sécurité qui sont répétées et répétées et répétées à chaque départ de battue. Ça a fait baisser les accidents parce qu'il y en a toujours. Hélas, c'est dramatique. Mais ça les a fait baisser quand même. Alors il y a quand même un gros travail à faire sur ce maniement des armes, sur ces respects de la sécurité.
Et sur ce mode de chasse, parce que si je ne me trompe pas, d'après les statistiques, la chasse à battue, quand on chasse et qu'on fait une battue, c'est 8 balles pour un animal tué, si je ne me trompe
pas. En gros, c'est ça, oui.
Par rapport à une chasse à l'affût ou à l'approche, on a 1,5 balles tirées pour un animal tué.
Effectivement.
Donc en plus, ça pose des questions, parce qu'on sait que les plombs, bah, ils ne disparaissent pas de la nature, voilà. Etc. Enfin, il y a aussi ces questions-là qui peuvent être interrogées.
Alors là, après, au niveau des plombs, moi, je chasse qu'avec des carabines, donc c'est des balles. Voilà, mais alors, je ne pense pas que les volumes soient conséquents. Hein.
Moi, Ils sont conséquents.
Oui. Alors là, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas de chiffres.
C'est conséquent.
Par contre, quand on voit les voisins, par exemple l'Allemagne, tous les pays scandinaves, eux, c'est des gens qui chassent, il y a très peu de battues, ils n'en font pratiquement pas, et ils ont beaucoup de chasse au poste, ils ont des miradors, ils viennent le soir ou le matin, ils s'installent au poste, ils attendent que les animaux sortent et ils les tirent. Et ça, on dirait que c'est un mode de chasse qui est moins stressant et moins dérangeant. Et bon, après, peut-être qu'il y a des zones qui sont sensibles où il faudrait peut-être aménager justement des lieux qui soient réservés à la chasse à l'affût ou à l'approche. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est à discuter, c'est à faire rentrer dans les
pratiques et voilà, dans les partages du territoire.
Voilà, exactement. Ça peut être aussi une piste.
Parce que généralement, les chasseurs, ils vont soit pour le plaisir de la chasse, mais il y a aussi une chasse qu'on appelle la chasse de régulation. Et là, ça pose d'autres questions, d'autres enjeux. Donc, il faut trouver des pratiques qui se marient avec les intérêts qu'on essaye de défendre. Et les intérêts sont multiples, vous me disiez, parce que notamment les AK, elles sont redevables, par exemple, des dégâts qui seraient produits par la faune d'ongulés, par exemple, si tel devait être le cas sur des cultures.
Alors, effectivement, c'est les ACCA qui payent les dégâts des grands ongulés. Donc cerfs, biches, chevreuils, sangliers, hein. Après, a priori c'est les grands ongulés qui poseraient le plus de problèmes. Alors il faut savoir qu'en France, en 2022, je crois que c'est 77 millions d'euros de dégâts qui ont été payés par les associations de chasse pour indemniser les agriculteurs. Bien sûr, les sangliers mangent du maïs, ils vont dans les cultures, dans les jardins.
Ce sont des animaux sauvages,
voilà,
ils mangent ce qu'ils trouvent.
Voilà, exactement, ça, il n'y a rien de plus naturel, quoi. On ne peut pas faire autrement. Alors, pardon. Donc, il y a effectivement un problème de régulation par rapport à ces coûts. Et dommage que ça cause à tout un chacun et à tous ceux qui vivent de la nature les agriculteurs, les éleveurs, voilà tout ça. Alors il se tue, je crois, en gros 800 000 sangliers par an en France. En gros, 800 000 sangliers. Les comptages OFB disent qu'il faudrait arriver à en tuer à peu près 1 million pour tenir une population stable. Mais bon, on n'y arrive pas. Les chasseurs, il y en a de moins en moins. C'est une voie. Le chasseur est une espèce en voie de disparition. Si je peux me permettre.
Oui, mais vous avez le droit, vous êtes chasseur, vous êtes libre de parole. C'est le principe de Radio Royan, c'est que tous les propos sont admis, tant qu'ils sont respectueux les uns des autres.
Dans toutes les SACCA que j'ai pu fréquenter, la moyenne d'âge est très très importante. On voit peu de jeunes, très peu de femmes. Et c'est difficile à maintenir les tableaux pour faire de la régulation. Alors, comme je vous le disais aussi, la régulation, c'est à double tranchant. Est-ce qu'on tue pour réguler ou est-ce qu'on régule pour tuer? Voilà, c'est un peu, je dirais, c'est le paradoxe de la chasse aux sangliers et la chasse de régulation.
Alors, je peux inviter nos auditeurs à lire le manifeste de la Frappe-Nadrome sur la chasse de divertissement et la chasse de régulation, qui explique bien les enjeux qui sont différents entre une chasse et l'autre, et donc des approches qui sont différentes. Après, je vous demande pas d'être d'accord avec le propos de la FRAPNA, mais au moins ça met en évidence quels sont les différents aspects, les différentes approches qu'on doit avoir sur la question de la chasse, qui bien souvent est assez clivante, faut le reconnaître.
Oui, c'est épineux. Oui,
épineux. C'est épineux. Et pourtant, il faudrait qu'on en parle, parce qu'en réalité, ça permet d'occuper un territoire, de le faire vivre aussi par la chasse, avec des gens qui pratiquent le milieu naturel et qui souvent sont relativement sensibles. On peut pas enlever ça aux chasseurs, à la question de la nature. Et donc l'OFB dans tout ça, elle arrive à donner d'autres indications pour avoir des pratiques de chasse, si je puis me permettre, vertueuses. Alors pour nos amis auditeurs, l'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité, qui avant était l'ONF, qui du coup a été renommé, donc on appelle ça maintenant l'OFB.
Alors l'OFB, à mon sens, ils sont pas assez nombreux. Ils font plutôt, je dirais, de la surveillance et de la répression, entre guillemets. Et je pense que leur rôle, s'ils étaient plus nombreux et plus à même, c'est de faire justement de la sensibilisation. J'ai été contrôlé dernièrement par les gardes du parc national des Cévennes, qui étaient accompagnés de l'OFB. Ils nous ont sensibilisés sur le fait de mettre des panneaux, nous signaler. C'était un jour où il faisait très très beau, il y avait du monde dans les bois, il y avait des ramasseurs de champignons, il y avait des familles avec des enfants. Et ils ont été ils nous ont vraiment conseillé de nous signaler et de mettre des panneaux pour faire voir qu'on était là. J'ai trouvé que c'était très bien.
Très pédagogue.
Voilà. Et je pense qu'ils devraient avoir plus de moyens pour essayer d'entrer dans une démarche comme celle-ci.
Oui, alors effectivement, l'OFB, c'est un service public qui lui aussi est en voie de disparition, si vous me permettez de vous renvoyer la balle. Donc on constate qu'il y a des enjeux et que ce serait bien que la puissance publique arrive à faire converser les gens les uns avec les autres. Et sur Bellavani, on serait d'accord pour rencontrer d'autres chasseurs ou d'autres organisations de chasseurs pour imaginer des choses en commun, notamment pour des questions, par exemple, d'entretien de chemin. Nous, on a la responsabilité de l'entretien du chemin de vanille sur la commune de Saint-Nazaire en Royan. Et on a toujours plaisir à voir que toutes les personnes sont prêtes à donner la main, à participer, à s'engager. Et je pense qu'avec le printemps, on vous annoncera bientôt une opération sur le chemin de vanille, chers amis éditeurs. J'espère y croiser quelques chasseurs.
Alors, je voulais juste aussi faire une petite parenthèse, puisque j'ai l'occasion d'avoir le micro, c'est que s'il y a au jour d'aujourd'hui, je pense, énormément de gens qui sont venus à la battue et à la chasse au grand gibier, c'est qu'il y a eu un écroulement des populations de petits gibiers, les grives, les merles, tous les oiseaux de passage, peut-être à part les pigeons ramiers qui sont encore...
Les rats volants, comme on dit à Paris.
Et je pense que cet effondrement de ces populations, elle est due, à mon sens, en grande partie à l'agriculture, parce que on est intimement lié aussi avec le monde agricole, le monde de la chasse. Et si en plus les chasseurs remettent une couche sur ces populations qui sont fragiles, c'est encore plus difficile pour elles de se remettre à niveau, quoi. Voilà.
Parce que c'est peut-être pas nécessaire. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est peut-être pas nécessaire.
On parle de gestion quand il y en a trop, mais il faut savoir aussi gérer quand il n'y en a pas assez. Et ça, c'est encore plus difficile. Ça demande encore plus de sensibilisation et d'attention.
Eh bien, merci Claude pour toutes ces informations. Et merci de votre participation à Bella Vanny. Je vais passer la parole à Maud avec peut-être Anne.
Bonjour à tous, chers amis, chères auditrices et auditeurs. Pour commencer, nous continuons de soutenir le collectif Vercors Citoyens et c'est en ce sens que nous vous informons que des membres actifs de Protégeons Vanille se sont retrouvés à la réunion publique mercredi 1er février à Corançon avec en Vercors.
N'hésitez pas à soutenir et suivre le collectif Vercors Citoyens sur le net et dans la vraie vie.
Mais aujourd'hui, c'est de l'actualité des luttes dont je voudrais parler et elle ne manque pas. Alors, je ne vais faire que survoler. Et pour dire non à la réforme des retraites, samedi 11 février est une journée de mobilisation nationale et vous pouvez vous retrouver à Valence, Grenoble, Romans, Saint-Marcelin par exemple.
Quelques infos supplémentaires, Maud ?
Eh oui.
On s'est battu pour gagner, on se battra pour garder la retraite.
Et oui, il y a toujours la pétition. Et pour atteindre le million, faites-la circuler. Donc, vous pouvez retrouver la pétition sur change.org. Retraite non à cette réforme injuste et brutale. Réforme des retraites.
Et si vous voulez soutenir les caisses de grève?
Alors, on a des camarades streamers qui se relaient pour proposer des programmes de lutte et collecter des sous pour une des caisses de grève existantes. Et donc, vous pouvez les regarder, par exemple, sur Twitch, Piquet des Streams. Vous avez aussi des caisses de grève à alimenter, parmi d'autres, sur Eloasso, par exemple.
Vous pouvez aussi organiser des projections solidaires.
Alors, vous pouvez trouver le mode d'emploi sur lesmutins.org, des films en soutien aux caisses. Et notamment, nous avons Gilles Perret qui libère les droits de 4 de ses films, Debout les femmes, La sociale, Je veux du soleil et Les jours heureux.
Jeudi 16 février, il y aura une manifestation à Romans-sur-Isère devant le siège du PSIDE. Je ne sais pas si je prononce bien. Indexia, ex-SFAM, S-F-A-M.
Oui, alors après la mobilisation des salariés, c'est au tour des personnes victimes de l'entreprise de se mobiliser. Pour vous rappeler le contexte, Indexia, donc l'ex-SFAM, a été épinglée par la répression des fraudes. Les soupçons de pratiques commerciales trompeuses pèsent une nouvelle fois sur le géant de l'assurance. Un rapport a été transmis au procureur de la République de Paris. Après avoir été perquisitionné en 2018, sanctionné d'une amende de 10 millions d'euros en 2019 pour pratiques commerciales trompeuses, puis à nouveau perquisitionné en septembre 2020 après que la DGCCRF a reçu plus de 700 signalements, donc selon RMC. On voit que la politique de l'entreprise est de continuer les mêmes manœuvres frauduleuses puisqu'elles ont permis à leurs dirigeants de devenir rapidement milliardaires. Récemment, l'entreprise a fait l'objet d'un envoyé spécial diffusé le 19 janvier. Donc, si vous avez été victime de la SFAM, rendez-vous jeudi 16 février à Romans-sur-Isère devant le siège d'Upside.
Alors, pour en revenir au calendrier, vendredi 24 février, film La très grande évasion au navire à Valence.
Oui, c'est à 20h pour le film. La soirée ciné-débat commence à 19h30 en partenariat avec Attac, Roman et Montélimar. Et le débat sera animé par Raphaël Prado, qui est professeur agrégé de sciences économiques et sociales à la faculté d'Aix-en-Provence et membre du conseil d'administration d'Attac. Donc vous pouvez retrouver ce programme sur le navire .fr sur Valence.
Enfin, samedi 25 février 2023, à 14h à la gare de Valence, il y aura une manifestation contre la loi Asile et Immigration.
Et oui, et au cœur de ces nombreuses manifestations, vous aurez sans doute un agenda bien rempli au mois de février, une occasion de donner un sens à sa vie, de prendre en main son propre destin et celui de nos enfants.
Vous pouvez retrouver les actions de notre association sur le site pourvanille.fr. Et si vous désirez que votre actualité soit évoquée, n'hésitez pas à nous contacter sur ensemble@pourvanille.fr. Voilà, cette émission se termine. Elle vous a été présentée par Séverine, Pierrick, Maud et moi-même, Nadine. Alain était en régie. Nous vous remercions d'avoir été à notre écoute et vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission le mercredi 8 mars. On va se quitter en musique avec le groupe Feu Chatterton, pardon, qui nous interprète « Laissons filer » que je vous suggère d'écouter avec attention. Je reprends un extrait de ce titre « Laisse-toi porter, fais comme le sable et le vent, retrouve la vérité nue de tous les éléments ». Waouh, c'est d'une grande poésie, n'est-ce pas? Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!
Laissons donc, laissons filer les yeux l'arrêt de loi souveraine du sable dans le vent. Laissons couler le sens des choses nous échappe comme l'eau dans la main. Laissons venir. Retrouvons la nature des choses qu'on appelait par leur nom secret parfois. Souviens-toi des métamorphoses qu'on vivait autrefois. Insensés de la ville sinueuse. Je deviens l'eau des métamorphoses, le sable et la rose, tout pantelant. Mais je suis pas fou pour un sou. Non, je suis pas fou pour un sou. Je t'emmène danser. Je t'emmène valser sur la ligne de l'horizon. Puis je t'envoie promener. Y'a rien à faire à Paris. Mais je suis pas fou pour un sou. Non, je suis pas sou pour un fou. Je rends juste à l'espèce la monnaie de sa pièce. Je me promène, je te le promets. Je me balade en palade, en mot d'homo sapiens malade. Je me promène, je te le promets. Je fais pas l'aumône, je rends juste à l'espèce la monnaie de sa pièce. Laisse couler, laisse filer. Laisse vie. Il y a 7 ans, jour sans trousse. Est-ce un millier d'or, un souvenir d'enfant, ou l'écho de nos pas, ou